Peter Piacek, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes travailleur social, vous êtes engagé dans l'aide aux Ukrainiens après le 24 février 2022. Vous avez notamment d'ailleurs dirigé un centre d'accueil, enfin d'adaptation pour les enfants réfugiés ukrainiens. On pourra éventuellement aussi en reparler. Peut-être est-ce que vous pourriez détailler un petit peu justement cet engagement que vous avez auprès des réfugiés ukrainiens à partir du moment où l'afflux de personnes a commencé en fait après le 24 février 2022.
Donc, je suis rentré à Tchéquie en janvier 2022 et dans 5 semaines, la guerre en Ukraine a éclaté.
Vous étiez où auparavant?
J'étais en France. J'y habitais pour 3 ans et quelque chose. Et donc, après, il y avait ce moment de choc. J'étais au moment de chercher comment continuer professionnellement dans ma vie. Et donc, je n'ai pas commencé tout de suite. J'attendais plusieurs semaines et j'ai réfléchi comment m'engager. Et à la fin, en mars 2022, j'ai téléphoné à une ONG, à OPU, c'est l'organisation à l'aide aux réfugiés qui est ici à Prague, où j'ai travaillé avant. Et j'ai juste demandé s'il y a besoin d'aide.
Évidemment, j'imagine qu'ils avaient besoin d'aide.
Ouais. Il y avait mon ancien chef qui m'avait dit merci Dieu, peut-être que tu nous appelles quand tu peux revenir. Est-ce que tu peux revenir demain? Et à ce moment-là, cette voie était décisive pour moi et finalement, je l'avais entré, ce travail. Et dans plusieurs semaines, il y avait un appel, il y avait un banque qui nous a donné possibilité d'utiliser un bâtiment, aussi un bâtiment des offices, et qui nous a donné aussi argent avec une mission, faisait quelque chose. Et donc après, il y avait personne d'autre qui s'est présenté à ce moment. Donc au début de mai 2022, j'ai commencé ce travail de préparation pour ouvrir ce centre d'accueil pour les enfants. Et à ce moment, je suis devenu un manager de crise. Mais c'était par hasard, c'était par guerre. J'étais jamais préparé pour cette situation. Donc c'était un petit peu par nécessité.
Alors, en effet, mais est-ce que vous vous souvenez peut-être du 24 février 2022, des heures qui ont suivi l'annonce de l'attaque russe contre l'Ukraine? Quels étaient vos sentiments juste après ça, en tant que citoyen, hein, simplement?
Je voudrais dire que c'était pareil comme les autres. J'étais profondément choqué à un côté, mais en même temps, j'attendais que ça va venir parce que... Les informations sur l'armée russe qui s'amasse à la frontière ukrainienne, c'était public depuis presque un an et demi. Et je croyais que quelque chose va se passer. Donc, en même temps, c'était un moment de révélation où il y avait une partie de moi qui était aussi soulagée. C'était un petit peu étrange. J'étais soulagé parce que finalement, cette tension et tous les fantasmes étaient éclairés. C'était clair qui se passe. Et donc, à ce moment-là, je pouvais m'engager dans la situation qui s'est révélée. Mais la première heure, j'étais comme les autres sur mon portable. J'étais submergé par cette attaque et par brutalité qu'on a vue en ligne.
Il y a eu à la fois un engagement officiel des autorités tchèques, du gouvernement tchèque de l'époque, mais aussi de la société civile. C'est ça que je trouve en fait toujours très intéressant dans la société tchèque. C'est à la fois le rôle des autorités officielles, mais aussi la société civile qui s'engage beaucoup et qui parfois d'ailleurs pallie aux défauts ou aux manques des autorités officielles. Comment est-ce que justement maintenant, rétrospectivement, 4 ans plus tard, est-ce que vous évaluez l'aide qui a été apportée dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois qui suivent l'invasion, plutôt justement cette aide officielle par rapport à ce que faisait la société civile?
Donc, ils ont été choqués comme les autres. Donc, c'était un chaos les premiers jours et premières semaines. Et l'État a apporté l'aide qui était plus essentielle en termes de logement. Et ils ont aussi assez tôt présenté un système de l'aide financière. Donc, c'est quelque chose que peut faire que l'État. Mais en même temps, on a vu que la société civile, l'ONG, mais aussi les citoyens normaux étaient prêts dès le début et étaient prêts dans le terrain. Donc, on a vu, après une collaboration, symbiose de l'État et les civils qui ont poussé beaucoup des activités et qui ont donné direction, qui ont poussé l'État de faire quelque chose et de s'organiser. À mon avis, c'était un bon moment où on avait collaboré tous les deux et ça a bien marché.
Quels étaient justement à l'arrivée de ces réfugiés qui étaient essentiellement des femmes avec des enfants, des personnes âgées la plupart du temps, quels étaient les besoins les plus cruciaux en fait qu'il fallait satisfaire à leur arrivée?
D'abord, c'était un point de repère qui, c'était à donner une direction, les informations et de les orienter dans la situation, d'expliquer quelles sont les possibilités, quels sont les pas qu'ils peuvent faire. Voilà, donc c'était d'abord la présence des gens normaux qui étaient avec eux au point d'arriver à la gare. Ici à Prague, qui n'est pas très loin. Et après, il y avait un système qui leur aidait de s'enregistrer, d'avoir une protection temporelle, cette spéciale, une type de visa spécial. Et après, il y avait un système d'État, de logement. Il y avait des volontaires, des bénévoles qui ont logé beaucoup de gens chez eux. Voilà, et après il y avait les centres qui ont accueilli les gens pour les prochains pas, donc voilà, pour les orienter dans les possibilités de travail, des cours, de tchèques, comme ça. Mais je voudrais dire que d'abord c'était la présence très simple des gens qui étaient ici et qui les accueillent.
Vous parliez de la gare de Prague. Évidemment, il y a des gens qui sont arrivés en voiture, mais il y a aussi beaucoup de gens, en effet, qui sont arrivés via cette gare centrale où s'est organisée l'aide. C'est assez intéressant, justement, de repenser au fait que c'est cette même gare qui, en 1938-1939 plutôt, a aidé à évacuer en fait des centaines d'enfants juifs, pour la plupart, en les sauvant d'une mort certaine. C'est l'ancien courtier britannique Nicholas Winton, avec des collaborateurs tchèques et britanniques, qui en fait a accompli cet acte héroïque hein, et de bravoure. Et c'est un symbole fort, finalement, de se dire que des décennies plus tard, ces mêmes lieux ont en fait accueilli des réfugiés qui fuient la guerre. Et j'aurais bien aimé qu'on parle justement d'un événement que vous avez organisé à la gare centrale qui rappelle en fait cette sorte de filiation. C'était en décembre dernier.
Oui, on organise avec un pasteur protestant, on organise traditionnellement une prière pour quand il y a le jour des migrants. C'est toujours le 18e décembre. On organise une prière pour les réfugiés, pour les émigrés. L'année dernière, on a eu l'idée que c'était bien de partir d'église et d'aller à cette point central où on voit que dans les moments historiques, il y a toujours les afflux de gens qui passent par là. Donc c'est un centre naturel de migration, de mouvement des gens. Et on a trouvé qu'aujourd'hui, on est dans la situation où on souvent entend les voix qui les attaquent. Je pense les réfugiés ukrainiens. Donc, on voulait connecter cela parce que c'est évident que ces gens qui ont besoin d'aide sont les mêmes, que sont toujours les forces qui les poussent. Et Gare Centrale, c'est un lieu très symbolique avec plusieurs niveaux de migration, de mouvements. Donc, on voulait être là. Aussi pour dire que aujourd'hui, on est en phase de oh, c'est mon opinion personnelle, mais on est en phase de force ou de l'esprit du moment qui est ressemblable. Donc, c'est bien d'être à ce lieu symbolique et de parler, d'avoir ce message depuis Gare Centrale.
Oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a des parallèles qu'on peut peut-être faire avec la situation de l'entre-deux-guerres des années 30 avec notre période aujourd'hui. Je voulais juste revenir aussi sur un chapitre un peu à part de cet accueil des réfugiés, puisqu'il y a aussi eu le cas de réfugiés roms d'Ukraine. Et alors, eux qui ont subi d'une certaine façon une forme de double peine, hein, puisqu'ils étaient à la fois réfugiés et roms, et dont les autorités tchèques, pour le coup, ne voulaient pas ou s'excuser en disant qu'il y avait des problèmes de nationalité, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur cet épisode, quand même, qui est pour le coup un peu moins glorieux, on va dire, sur le plan de l'aide officielle ?
Oui, donc c'était un moment complexe. On peut dire que nous, les Tchèques, nous sommes passés un test d'humanité par rapport aux réfugiés ukrainiens. Et en même temps, on a vu que les réfugiés ukrainiens roms étaient refusés même demander ce type d'asile avec l'argument qu'il y a double nationalité, donc nationalité ukrainienne et hongroise parfois, ce qui était vrai, mais c'était vrai dans les 3-4% des cas. Et ces moments étaient instrumentalisés par l'ancienne ministre d'Intérieur qui a dit que c'est presque la plupart des cas. Et à la fin, on a vu que le droit d'accès au asile, dans ce cas, était refusé. Donc, on a vu en ligne où on vit une discrimination systémique par rapport à les Roms, ce qui est une situation, un problème qu'on voit depuis presque toujours. Donc c'était un nouveau moment où on a vu que par rapport à les Roms, nous les Tchèques sommes assez racistes.
4 ans plus tard, est-ce que vous êtes en contact avec, par exemple, certaines personnes réfugiées que vous avez aidées, avec lesquels vous avez peut-être sympathisé, avec lesquels vous avez gardé le contact? J'imagine qu'il y a eu tellement de personnes, évidemment, on peut pas garder contact avec tout le monde, mais peut-être est-ce qu'il y a des gens avec qui vous êtes resté en contact? Comment vont ces personnes? Qu'est-ce que vous voyez en fait de leur intégration ici? Est-ce que ça se passe bien?
Je vois parfois, je rencontre les gens qui nous ont aidés à ce centre d'accueil pour les enfants, parce qu'on a donné travail aux certains d'eux. Et on voit qu'il continue bien, donc c'est toujours bien. Et j'ai aussi une de cette pédagogue, on avait beaucoup aidé à aussi trouver un logement et travail, mais à la fin, ils sont revenus à Jytomyr, à l'Ukraine, et après on a communiqué que la situation est Elle a dit que même si nous sommes sous les bombes, notre place est ici. Donc, on a vu que la situation de chaque famille est spécifique et singulière. Que pour certains, c'était une bonne idée de revenir pour être là où leur cœur bat, et qu'ils ont trouvé, c'est un peu étrange de dire, mais leur paix dans le pays natal, plus qu'ici. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'était bien d'avoir cet échange avec eux parce que j'avais le sentiment que c'est un peu paradoxal. Mais certains qui sont rentrés à l'Ukraine sont plus contents quand on l'a.
Récemment, un appel œcuménique a été publié en soutien aux réfugiés. Est-ce qu'on peut parler peut-être de cet appel?
C'était une deuxième partie de cette prière qu'on fait chaque année. Et j'avais le sentiment que c'est bien de formuler quelque chose, avoir les mots pour la situation où nous sommes, aussi internationalement, parce que c'est une atmosphère dans laquelle on se navigue, où on fait nos choix aussi.
Oui, il faut rappeler que c'est un appel œcuménique en fait en soutien, enfin qui est un appel en fait à soutenir les
À
réfugiés.
soutenir les réfugiés, à refuser des attaques politiques, d'instrumentaliser cette attaque pour gagner dans les campagnes. Ce qu'on a vu beaucoup dans les élections tchèques. J'entendais aussi la situation, où je vois la situation aux États-Unis. Je m'inspirais au texte qui ont utilisé les évêques aux États-Unis. On avait travaillé le texte avec pasteur Mikuláš Vymětal. Et on s'est lancé. Très simplement, on avait dit qu'il ne faut pas attaquer ceux qui sont les plus faibles entre nous. Et il faut pas le faire si on dit qu'on est chrétien, parce que ça c'est aussi instrumentalisation de la foi qu'on voit ici en Tchéquie comme ailleurs.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis ou en Hongrie, c'est partout, on voit ça. Donc on voulait dire que c'est pas nous, que c'est pas notre voie, et il faut pas rester silencieux quand les choses comme ça se produisent. Donc c'était une petite pétition, mais à la fin, en janvier cette année, on a vu qu'en fait les dirigeants des églises différentes, et après aussi la conférence des évêques et le conseil œcuménique, mais aussi la Fédération des communautés juives, ont publié proclamation qui est allée dans la même direction, avec même esprit, qui ont donné la situation dans le contexte aussi des années 30, et la première perron de cette gare centrale à Prague, qui était point de départ pour les enfants juifs, parce que je pense que c'est un contexte important, qu'on n'est pas dans un vacuum, mais s'il y a une place qui est semblable, qui nous donne cette vision, il faut y aller, il faut en parler, et parler de cette place, de dire les choses à cette place. Donc j'avais le sentiment qu'à la fin, aussi cet appel a eu une certaine résonance, et ça m'a plaidé beaucoup de voir que aussi les dirigeants des églises ont utilisé leur voix contre les xénophobes et les populistes qu'on a dans notre gouvernement maintenant.